Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.
Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Deux sujets qui sont alors au cœur des débats en ce moment, mais alors traités par des jeunes entrepreneurs qui sont en train de tout changer. Voilà, j'ai nommé l'assurance et j'ai nommé les sondages. C'est parti, on commence avec l'assurance. Et on démarre donc avec Raphaël Vuillerme. Bonjour, Raphaël. Non, c'est Vuillerme.
C'est ça. Fait.
Oui, voilà.
Bravo.
Vuillerme. Le patron de Luco, donc, assurance nouvelle génération. Alors, d'abord, 50 millions d'euros de levée de fonds. Juste un mot là-dessus, Raphaël, parce qu'on s'était vu il y a 2 ans, à l'époque où, je ne sais pas, tu avais peut-être levé 1 million d'euros.
2 millions, ouais.
2 millions, c'est là. 2 millions d'euros aujourd'hui, je ne regarde même plus. Il s'est passé quelque chose dans le financement des startups, non, et dans notre écosystème?
Il y a en effet beaucoup plus de fonds présents. Il y a aussi des fonds américains, notamment plus late stage, qui sont très présents en Europe.
Ouais.
Et donc la compétition entre investisseurs est énorme.
Il y a ce qu'on appelle, il y a du corporate venture aussi, parce que vous d'ailleurs, par exemple, je crois qu'il y a Orange.
Il y a Orange qui participe à la levée de fonds. Un petit ticket.
Voilà. Ouais. Donc les entreprises elles-mêmes qui financent.
Il y a beaucoup plus en effet de compétition, donc les entrepreneurs peuvent en tirer parti. Et les tailles moyennes de tours augmentent énormément. Pour le bien de l'écosystème, je pense. Et l'écosystème parisien a aussi beaucoup grandi, donc il y a beaucoup plus de talents, des entrepreneurs bien plus entraînés. Donc moi, c'est ma 3e boîte, par exemple. Et ça change. On est un peu plus proche, peut-être, de la Silicon Valley qui était il y a 10 ans. Ça commence à arriver en Europe et à Paris, absolument. Donc c'est très bien.
Mais absolument. Assurance, alors l'assurance de la maison, hein, c'est votre truc aujourd'hui. Nouvelle génération. Ça veut dire quoi, nouvelle génération? Ça veut dire d'abord... je vais vous le dire, moi je le dis très franchement, je dirais pas, parce que j'ai préparé cette interview, puis j'ai été regardé, j'ai dit moi j'ai un logement, je sais combien je paye, et puis j'ai fait un devis en 2 minutes, comme on peut le faire sur votre application, c'est absolument génial. Hein. Vous allez sur l'application Luco, vous tapez votre adresse et vous vous retrouvez avec Google Maps, et ça vous dit tout de suite, alors j'ai la chance d'avoir une maison, hop, le lot que vous avez assuré et tout.
Au lieu de vous poser 30 questions,
Raphaël,
on utilise l'imagerie satellite par exemple, donc c'est un des...
Moins cher.
Okay.
Vous êtes deux fois moins cher, plus de deux fois moins cher que mon assureur actuel. Je ne dirais pas qui c'est.
Alors,
qu'est-ce qui permet de réaliser ça?
Alors déjà, notre but, ce n'est pas d'être toujours deux fois moins cher. On n'est pas une assurance low cost. On est en moyenne 15 à 20% moins cher que les assureurs traditionnels.
Ça t'embête alors même garantie. Que je dise deux fois moins cher, parce que ça brouille ton message. Mais c'est la réalité, deux fois moins cher.
Donc on utilise d'autres data pour calculer le prix et le risque de votre logement, notamment l'imagerie satellite. Et donc ce qu'on fait, c'est que ça nous permet d'être bien plus précis. Et donc pour la majorité des gens, on va être moins cher. Pour certaines personnes qui ont plus de risques, on va probablement être plus cher. Et on vient pas. Notre but, c'est pas de casser les prix, c'est de venir prévenir les sinistres et de mieux les gérer quand ils arrivent, en étant extrêmement efficient. Donc, on n'a pas d'agence, on n'a pas des frais de structure, on n'a pas de tour à la défense.
Ouais, c'est ça.
Ça,
hein.
Ça nous permet d'être 15-20% moins cher. Le deux fois moins cher, c'est lié au modèle qu'on a, qui nous permet d'être plus proche des risques réels.
Alors en plus j'habite à Clamart, alors vous ne savez pas, mais Clamart c'est sur des carrières, donc j'ai un risque terrain qui est assez élevé, il est d'ailleurs pricé, je le vois bien sur le truc, et puis j'habite au bout d'une impasse, donc j'ai un risque vol qui est aussi assez élevé, donc voilà, et là aussi c'est pricé, c'est très très clair, on le voit sur le truc. Tu m'avais dit quelque chose sur les assurances il y a 2 ans, Raphaël, et alors ce qui se passe aujourd'hui rend ce truc mais exceptionnel, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu m'avais dit en fait les assureurs actuels ne servent à rien. Il y a des gens qui savent gérer des capitaux, c'est les géants de la réassurance, Munich Re, Score, etc. Et puis il y a la relation client, et ça c'est nous.
Et en effet, l'assurance de détail, comme dans la banque de détail, et il y a l'assurance d'affaires plus, donc de capital.
Non, la relation client.
Ah oui,
moi, ce que j'ai eu en face de moi, mais c'est pour le coup une relation client incroyablement moderne. En 5 minutes, j'ai eu plus d'informations sur mon logement et sur ce qui pouvait s'y passer, en 15 ans de contrat avec mon assureur classique.
C'est en effet notre but. Notre but, ce n'est pas de vendre un contrat administratif, c'est de venir protéger les foyers. Donc, vous avez cité l'exemple de l'imagerie satellite. On ne vient pas juste calculer un prix, on vous donne un rapport que vous avez pu télécharger avec les niveaux de risque et des conseils sur comment les réduire. Donc, par exemple, si on voit que vos arbres ils sont à côté de la maison et que sont mal élagués, et ça, l'imagerie satellite permet de le faire, on va venir vous donner ce genre de conseils. Et le but, Le français, ce qu'il a besoin, c'est pas un contrat administratif. Ce qu'il a besoin, c'est de pas avoir d'accident. Et le meilleur assureur, c'est un assureur qui vous empêche d'avoir des accidents. Et c'est toute l'énergie et toute la technologie qu'on utilise, c'est avant tout pour venir prévenir les accidents. Et après, quand malheureusement, on peut pas tous les prévenir, c'est de venir donner des solutions très concrètes. Donc, ce qu'on a fait ces deux dernières années, c'est des réseaux de plombiers dans toute la France. C'est des peintres. C'est de l'expertise à distance pour éviter que vous attendiez deux mois d'avoir un expert qui vient faire un rapport chez vous. Et donc, tout ça, c'est de la simplicité à la fin et notamment de la compétition. Pour le client.
Les assureurs ne servent à rien. Ils servent à rien, les assureurs.
Je pense pas que j'avais dit ça. Je pense que j'avais dit.
Si.
Que la perception de l'assurance, en effet, c'est vu comme une taxe inutile. Une fois tous les 10 ans,
Non, t'avais dit ça. T'avais dit. Parce que, alors d'ailleurs, t'es appuyé sur un réassureur, toi.
Ouais, voilà. Avec les deux plus gros réassureurs au monde.
Voilà. Et en gros, tu dis, il y a deux métiers. Il y a la gestion du client et il y a le capital. Voilà. Et effectivement, mais on en reparlera d'ailleurs. Il faut des masses de capitaux importantes pour pouvoir assurer les risques.
Absolument.
Et au milieu, il y a des grands réassureurs aujourd'hui qui ne servent à rien.
En effet, l'assurance telle qu'elle est faite aujourd'hui, qui est très loin du client et qui ne fait pas juste du portage de risque, c'est extrêmement compliqué pour eux dans le futur de maintenir ces positions-là.
Forcément, tu as regardé, tu as suivi ce qui s'est passé, le Covid, les restaurateurs, etc. Et tout.
Tu
penses quoi ?
Moi, ce que j'en pense, c'est que...
C'est un désastre pour les assureurs.
Alors, il y a deux concepts. L'assurance est là pour assurer un aléa qui doit être mutualisé. Donc, quand tout le monde a le même accident, c'est compliqué, évidemment, pour un assureur de payer. Le problème, c'est que c'est des organisations très opaques. Et donc, le grand public pense que, et probablement a raison, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres. Et ce qui serait bien, c'est que tout le monde ait les chiffres, que les assureurs se sont enrichis pendant le Covid. Si on prend sur l'automobile, il y a eu toutes les voitures qui sont restées au garage pendant 3 mois. Forcément, il n'y a pas eu d'accident. Et au mieux de dire, on va rendre cet argent, ça fait une assurance, je crois que c'est la Maif, on va rendre cet argent parce qu'il n'y aura pas d'accident pendant ces 3 mois. Et ils ont dit, on verra à la fin de l'année, parce que cet été, les gens vont partir en vacances, voilà, ils ont noyé le poisson. Et sauf qu'à la fin de l'année, il n'y a aucun bilan qui va être fait de dire où sont allées vos primes, parce que ce n'est pas l'argent des assureurs, c'est l'argent des assurés qui sert à rembourser les sinistres, et c'est le principe de base. Donc chez Luko, on a un principe très simple, à la fin de l'année, on fait des bilans, et tout ce qui reste, on le redonne à l'association du choix de l'assuré. Ça fait que si l'assuré, il exagère ou s'il embellit son sinistre, ce n'est pas Luko, le grand capital sans visage qui est impacté, c'est l'association qui l'a lui-même choisi. Donc les gens se comportent mieux, et on a une transparence absolue de où va l'argent, qu'est-ce qui sert à faire notre métier, qu'est-ce qui sert à payer les sinistres.
Donc je crois que c'est 30% pour faire ton métier.
Exactement.
Voilà. 30% des primes en frais de fonctionnement. Le reste, on dépense ce qu'on a à dépenser pour indemniser, rembourser les assurés s'ils ont eu un sinistre. Et le reste, les autres assureurs, ils font ce qui s'appelle des réserves de participation. On les met de côté au cas où il y a un gros sinistre un jour, qui en fait n'arrive jamais, ou quand il arrive, on nous dit qu'on ne peut pas l'assurer, exemple Covid.
Exactement.
Et toi, tu ne fais pas de réserve de participation.
Alors nous, on travaille, et ce que font tous les assureurs, en fait, on achète de la réassurance en début d'année, et on dit, on va, pour les grands risques qui arrivent une fois tous les 20 ans, tous les 50 ans, et qui sont un peu systémiques, on vient acheter de la réassurance. Et ça, en fait, tous les assureurs le font. Et le problème, c'est juste, c'est noyé dans une énorme opacité, et donc... Pour le client, à la fin, il a juste l'impression de payer sans arrêt des primes. Et quand il a besoin d'être remboursé, il y a toujours une raison pour ne pas le rembourser. Et c'est cette absence totale de transparence et de compte-rendu aux assurés qui est extrêmement gênante.
C'est bien. c'est bien d'entendre.
Et c'est pas plus simple.
Parce que l'autre truc que tu dis, mais ça, tout le monde le sent, c'est l'assureur n'a aucun intérêt à vous rembourser. Tu dis même, en fait, son intérêt, c'est de te rembourser le plus tard possible.
Il est dans une position extrêmement paranoïaque quand il a un accident.
Soit mais toi aussi, métier. Ça, ou pas ?
Non, parce que nous, notre rémunération est fixe. En début d'année, 30% va nous permettre de faire notre métier.
Donc, tu as réaligné, en fait, les intérêts de l'assureur et les intérêts de l'assuré.
Exactement. Et c'est très fort, parce que ça nous aligne, nous, mais ça aligne aussi les assurés. Et donc ça permet d'avoir une confiance et une base de confiance beaucoup plus forte, de rembourser beaucoup plus vite, et à la fin, d'avoir des prix qui sont très compétitifs. On n'a pas augmenté nos prix depuis le début du co, justement grâce à ce modèle. Après, c'est l'efficience opérationnelle, mais ce modèle de transparence et d'alignement d'intérêts, il est extrêmement puissant.
Donc, tu es sur l'immobilier. Alors là, tu l'as raconté d'un mot, mais c'est un dispositif qui s'appelle Doctor House que tu lances, qui va te permettre, en fait, qui va nous permettre de faire un diagnostic de nos logements. Et donc, ces 50 millions d'euros vont te permettre de moderniser encore plus ça en termes d'IoT, d'objets connectés, etc. Et tout. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, tout ce que tu viens de dire, là, cette réflexion que tu as, cette efficacité que vous développez, ça peut aller sur d'autres domaines de l'assurance, autre chose que le logement?
Alors, ça doit et ça va aller sur d'autres domaines de l'assurance. Après, nous, on a une conviction très forte que le monde va se structurer en écosystème. Donc demain, on va acheter du transport, on va pas acheter sa voiture et son assurance, on va acheter des soins, des parcours de soins avec de l'assurance et des parcours de soins, et on va acheter du soin, du logement, ou ce que nous on appelle le home care. Et donc, soit on essaye de dire on est un assureur généraliste et on va essayer de tout faire, mais tout mal faire. Soit on dit on prend une verticale très précise qui est le foyer, on va récupérer les meilleures données du foyer, l'imagerie satellite, les bases publiques pour savoir où est-ce qu'il y a des carrières et des maisons qui peuvent tomber, la consommation d'eau, la consommation électrique, énormément de données. Et on va aider le particulier à comprendre ces données, à comprendre les risques qu'il a, aussi son impact environnemental et lui vendre tous les services associés. Et donc ce qu'on construit chez Luco, c'est un géant des services du foyer, on construit la couche de service du foyer durable de demain, et ça passe par pas faire que de l'assurance. Donc c'est pour ça qu'on a lancé Dr House, on va lancer beaucoup d'initiatives autour du foyer. Donc nous on a choisi une bataille, après d'autres personnes j'espère choisiront d'autres batailles.
Raphaël Vullierme, donc le fondateur de Luco, notre premier invité sur Sud Radio. Les sondages dans un instant.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30-20h.
On termine les amis, on termine donc encore avec de l'innovation et Jérémy Lefebvre qui est avec nous. Bonjour Jérémy.
Bonjour Stéphane.
CEO de Episto. Alors j'ai écrit parce que c'était écrit comme ça dans le journal, mais en fait, en lisant votre truc, donc sondage nouvelle génération, mais c'est pas des sondages que vous faites, c'est des études marketing. Alors est-ce que les études marketing sont des sondages?
Alors c'est les deux en fait, c'est les deux, c'est à la fois des sondages, des études dites d'opinion publique, c'est d'ailleurs comme ça qu'on est né, mais c'est aussi maintenant des études marketing qui représentent aujourd'hui le gros du marché des études en France et dans le monde. Et je pense que pour peut-être bien expliquer aux gens qui nous regardent le concept, on va peut-être remonter 2 ans en arrière, en fait le projet il est né au moment du grand débat, où le gouvernement sort son grand débat, mais propose des cahiers de doléances, des réunions en mairie pour les Français, quoi, pour qu'ils puissent participer. Et avec mon associé Alexis, on se dit, c'est bien, mais c'est quand même un peu à l'ancienne. Proposons une nouvelle manière de débattre et une nouvelle manière de consulter les Français. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé un projet qui a vocation de les interroger via les messageries instantanées comme Messenger, via les smartphones, de manière très simple. Et c'est ça qui a lancé l'activité.
Mais via les smartphones, via les réseaux sociaux en fait.
Alors via les réseaux sociaux. Donc pour rentrer dans le détail, on va chercher les gens sur les réseaux sociaux avec de la publicité. On leur donne envie de participer à des enquêtes et à des sondages. Et derrière, on les interroge avec la messagerie dans un format qui est très facile d'utilisation pour eux.
Tu vas trop vite, Jérémy. On a un peu de temps nous ici là. Là, vous avez le gars qui est habitué à faire son pitch
en
2 minutes 30.
Désolé, je vais un peu trop vite. Okay.
Tu vas trop vite. Qui sont tes clients aujourd'hui?
Aujourd'hui, mes clients, il y en a plusieurs. Il y a à la fois des grands instituts d'études comme Kantar, Ipsos, BVA.
Alors, restons sur Ipsos, par exemple.
Ouais.
Ipsos, il va... Alors, type de contrat ou de question que te pose Ipsos.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'Ipsos a besoin de toi? Pour savoir quoi exactement, par exemple?
En fait, pour Ipsos, on est juste un nouvel outil pour aller chercher les données, pour aller interroger des consommateurs ou des citoyens. Un outil qui passe par ces canaux que sont les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Et pour bien comprendre...
Ipsos, il ne sait pas faire ça, lui.
Et bah, a priori, il préfère passer par des solutions dont c'est la spécialité, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et des solutions comme la nôtre qui vont être sans doute plus efficaces dans le but d'aller interroger justement ces consommateurs et ces citoyens. Pour bien comprendre peut-être ce sujet des réseaux sociaux pour les études. Aujourd'hui, rien que Facebook, c'est 38 millions d'utilisateurs actifs en France, donc quasiment 60% de la population. Et les gens passent en moyenne 2 heures par jour sur ces réseaux sociaux.
38 millions d'utilisateurs actifs, mais une fois par mois?
Non, justement, en moyenne, 2 heures par jour. Ce que ça veut dire, c'est que les gens passent...
Il y a 38 millions de personnes qui passent 2 heures par jour en moyenne en France sur Facebook.
Oui, c'est ça les statistiques. Et donc quand on sait ça, on se dit, c'est un super moyen pour aller en fait interagir avec eux, leur poser des questions, que ce soit des questions sur des consultations, on va dire, citoyennes, ou des questions sur des sujets plus marketing. En fait, on leur donne un moyen de donner leur avis sur des sujets qui vont être importants pour eux.
Et donc, ils sont sur Facebook, c'est pas pour répondre à tes questions. Donc comment est-ce que tu les convaincs de répondre à tes questions?
En fait, c'est très simple. On leur donne simplement envie de participer, de donner leur avis sur des sujets qui les intéressent et sur lesquels ils vont avoir un impact.
Et tu leur donnes envie parce que tu les connais grâce au marketing et grâce aux produits qu'ils consomment?
Je les connais parce que je vais, grâce aux réseaux sociaux, avoir la capacité d'interagir avec eux, notamment via la publicité en ligne, en fait. Et à ce moment-là, je leur donne envie simplement d'aller me donner leur avis sur des sujets qui vont potentiellement les intéresser. Je prends des cas, on a fait des études très locales dans lesquelles on donne la possibilité à des citoyens de donner leur avis sur leur ville, sur les projets qui leur paraissent les plus importants, des cas dans lesquels on va les interroger sur les transports qu'ils utilisent au quotidien, savoir ce qui va bien, ce qui va pas, ou des cas un petit peu
mais
plus marketing.
L'ensemble de ces données, savoir où j'habite, savoir si je prends le métro, le train ou la trottinette, c'est Facebook qui les a, ces données, c'est pas
ça. Ça, c'est Facebook. Donc ça, nous, on achète de la publicité qui va nous permettre d'aller en fait, rentrer en contact avec les gens. Les gens, eux, décident de cliquer sur nos publicités, comme ils cliqueraient sur une publicité pour un e-commerçant.
Je comprends.
Et à partir de ce moment-là, au lieu de les amener sur un site de e-commerce, nous, on les amène sur un de nos questionnaires, qui en plus va être vraiment super en termes d'expérience, qui va être conversationnel, avec une expérience vraiment très chiadée. Et à partir de ce moment-là, en fait, on commence à collecter leur avis. Tout ça est très explicite pour eux. On prend leur consentement, bien évidemment. Et à ce moment-là, on commence à collecter leur avis. Et c'est ces données-là, qui sont des données déclaratives, que l'on exploite ensuite et qu'on restitue à nos clients.
Est-ce qu'on peut aller sur des sujets anxiogènes, ouais, importants, avec cette technique aujourd'hui ?
En fait, on peut le faire. C'est sans doute plus difficile d'interroger des gens sur ces sujets un peu anxiogènes que des sujets, on va dire, très sympathiques.
Voilà.
Mais en fait,
parce que vous aimez les chiens, c'est plus simple.
Il faut raisonner par rapport aux autres méthodologies de collecte de données dans le monde des études. Aujourd'hui, il y a des panels, il y a le téléphone, il y a le face-à-face. Et en fait, si on reprend un peu l'histoire des sondages, depuis 70 ans, en France, ces méthodologies, en gros, prennent des parts de marché les unes sur les autres. Nous, on est juste en train de développer une nouvelle méthodologie très puissante pour aller interroger tous les Français grâce aux réseaux sociaux. Et en fait, en effet, c'est un bon point, il y a des sujets qui sont un petit peu plus difficiles à traiter que d'autres, mais on finit généralement toujours par y arriver.
Vous pouvez détecter des signaux faibles ? Non, parce que vous agissez plutôt sur demande, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Alors, nous, on va...
Si je prends les gilets jaunes, il aurait fallu quelqu'un à un moment ait l'idée de demander à Epistoo. Est-ce que vraiment ça vous met en colère l'idée de payer le carburant 2 centimes plus cher et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, quoi ?
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Mais
c'était intéressant justement le tout premier projet qui nous a fait connaître, donc qu'on a appelé à l'époque Entendre la France. On a interviewé justement des gilets jaunes et à la différence du gouvernement à cette époque-là, on demandait aux gens de se positionner par rapport au mouvement. Donc on était capable de dire voilà ce que les gilets jaunes pensent en moyenne, en tout cas ceux qu'on a interrogés, alors qu'il y avait assez peu de données justement via les sondeurs plus traditionnels pour essayer de comprendre cette pensée des gilets jaunes. Donc en effet, alors c'est pas des signaux faibles dans le sens où on va pas aller analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
J'ai compris.
C'est toujours du déclaratif et on est toujours en train d'interroger les gens et c'est très explicite entre nous et les gens. Simplement, on est capable d'aller chercher justement ces populations un peu niches. On parle des gilets jaunes, mais ça peut être des populations locales, ça peut être des populations, des gamers, des véganes, certaines populations B2B. Toutes ces populations niches qui sont assez difficiles à interroger via les méthodologies plus traditionnelles de collecte. Et nous, justement, grâce aux réseaux sociaux, on arrive très bien à aller interagir avec ces gens-là et à aller collecter leur avis. En fait.
C'est super important, Jérémy, hein, parce que tout notre sujet démocratique aujourd'hui, en fait, il peut se résumer dans le fait que ceux qui sont au pouvoir ne savent plus finalement ce que pensent les gens qui ont coupé tout contact avec les liens classiques de communication. T'es capable d'aller chercher ces gens. Alors, on pense évidemment aux hillbillies, au cœur des Appalaches, qui ont voté Trump alors que personne ne les attendait, etc. En fait, par les réseaux sociaux, t'es capable d'aller les chercher. T'es capable, en tout cas, de recueillir leur avis.
En tout cas, on sait qu'on va collecter l'avis de gens qui, généralement, ne vont pas répondre au téléphone,
voilà,
ne vont pas être inscrits dans des panels. On dit pas que ces méthodologies de collecte-là...
Peut-être même, ils vont les rejeter, d'ailleurs, ces panels. C'est peut-être même volontairement, il y a une forme de rejet.
Ouais, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, je vais prendre un exemple peut-être très précis. Les jeunes, par exemple. Les jeunes, on les retrouve très peu dans les panels. Quand vous essayez d'avoir un jeune au téléphone, je parle de génération Y et Z, pour leur faire passer un sondage téléphonique, c'est littéralement impossible. Nous, justement, on leur offre un moyen très facile de donner leur avis en quelques clics avec un format qui va être très user-friendly, pour ne pas utiliser le terme chiadé, et qui va leur permettre du coup de s'exprimer de manière très très facile. Et justement, c'est un exemple typique de cible qu'on n'arrive pas à trouver ou très difficilement par ailleurs et que nous, on arrive parfaitement bien à interroger. Et c'est la raison pour laquelle nos clients, donc on citait Ipsos, mais Kantar, Opinionway, tous les autres, et des marques comme Pepsi ou encore Decathlon, passent par nous pour aller interroger justement certaines de ces cibles niches.
Jérémy Lefebvre donc, Epistoo. Et les amis, sur Sud Radio, on se retrouve demain.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.
Et à demain, Stéphane Soumier avec les vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Ce sera à 19h30 sur Sud Radio et sur Bismart. La suite de votre soirée à l'écoute des vraies voix qui font bouger la France. Parlons de votre patrimoine, ces conseils de famille sur Sud Radio.